Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. George Orwell est un écrivain engagé. En prise avec le réel, au front sur la guerre d'Espagne, fervent combattant du fascisme, du nazisme, il est journaliste et analyste de son temps. Un analyste si talentueux qu'il en est devenu visionnaire. J'ai choisi parmi ses écrits un roman célèbre, incroyablement actuel, pourtant écrit en 1949. Un roman qui porte pour titre une date, 1984. 1984, c'est donc le futur pour Orwell, mais c'est le passé pour nous. L'occasion de faire un bilan. Où en est notre monde? C'est la question que pose la lecture de ce roman. Vous entendez la bande-son derrière moi? Elle est issue d'un clip publicitaire réalisé par Ridley Scott en 1984 précisément. Un petit chef-d'œuvre intemporel. Allez donc le découvrir sur notre site. Ce roman a marqué tant d'artistes que j'ai choisi de construire notre émission à travers les musiques qu'il a inspirées. David Bowie d'abord, en 1974, avec son album Diamond Dog, qui au départ est une adaptation musicale du roman d'Orwell. Seulement voilà, les héritiers refusent de lui céder les droits. Il va donc inventer une autre histoire. Mais il va garder l'univers du roman, celui d'une dictature inflexible qui cherche à contrôler les pensées. Le héros du roman d'Orwell s'appelle Winston. Il se sent marginal car il continue d'avoir des idées rebelles, malgré le conditionnement du Big Brother. Big Brother vous regarde. Vous connaissez l'expression? Elle vient de là. Big Brother est au cœur de ce monde. Il est partout, il observe, il traque. Dans les rues, dans les maisons, sur les affiches, dans les écrans. Capable d'entendre toutes les conversations, même basses. Capable de percevoir jusqu'aux émotions inappropriées. Et la police de la pensée vient alors interroger et arrêter les suspects. Tout dans ce monde est conçu pour nier et détruire la pensée propre. Big Brother, c'est l'incarnation d'une angoisse. Une angoisse qui a traversé le temps, celle d'être surveillé, pisté, fiché. Big Brother, c'est aussi l'incarnation d'une autre peur, plus grande encore, celle de perdre sa liberté de penser. George Orwell développe avec grande finesse le mécanisme psychologique qui anesthésie la pensée propre et fait de chaque individu un esclave consentant. Devenir un esclave consentant. C'est l'idée que développe David Bowie dans sa chanson « Big Brother » que vous entendez derrière ma voix. façonner un esclave consentant, il suffit de créer une peur. Et pour créer une peur, il faut créer un ennemi. C'est une stratégie efficace pour occuper les esprits et manipuler les pensées. Orwell a imaginé que le monde était découpé en trois blocs sans cesse en guerre. L'Océania, l'Eurasia et l'Estasia. La chanson que vous entendez en fond s'intitule United States of Eurasia. Elle est extraite d'un album tout entier inspiré par ce roman de George Orwell, un album sorti en 2009 intitulé Résistance, signé du groupe anglais Muse. Lorsque les forces du pays doivent se concentrer pour gagner la guerre, tout le reste devient secondaire. Sur les télécrans, une voix incessante débite des informations sur les attaques, les victoires, les productions de fonte, d'armes, de chaussures pour les militaires. Aussi, lorsqu'une dépêche explique que la ration de chocolat sera réduite, personne n'ose s'en plaindre un seul instant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, 1984 est aussi et surtout une histoire d'amour. Le héros du livre, Winston, ne parvient pas à s'abstraire totalement de ses instincts. Quelque chose résiste en lui. Imaginez la difficulté pour lui d'admettre qu'il croit encore en l'amour. Julia est comme lui, comme Winston. Elle aussi, elle enfouit ces idées-là. C'est presque invraisemblable qu'ils puissent l'un et l'autre découvrir qu'ils aiment, qu'ils s'aiment. Je ne vous dévoilerai pas le détail de leur rencontre qui fait toute la force de la démonstration de ce roman d'Orwell. Le groupe Muse s'empare de cette thématique dans le titre que vous entendez là derrière ma voix. Undisclosed Desires, extrait de leur album Résistance. Aimes-tu l'amour ? Demanda Winston. Je ne veux pas parler simplement de moi, je veux dire l'acte lui-même. J'adore cela. C'était par-dessus tout ce qu'il désirait entendre. Pas simplement l'amour qui s'adresse à une seule personne, mais l'instinct animal. Le désir simple et indifférencié. Là était la seule force qui mettrait le parti en pièces. C'était un acte politique. Le travail de Winston consiste à modifier des articles de presse du passé en fonction des actualités. Il s'agit de justifier, quoi qu'il advienne, que Big Brother a toujours raison. Aucune trace de vérité ne peut rester, puisque tout est sans cesse changé. Les individus sont éduqués à croire Big Brother, aveuglément, même si cela n'est pas cohérent. Modifier l'histoire ne suffit pas pour cela. Big Brother modifie aussi l'usage de la logique. Il crée ce qu'il appelle la double pensée, dont voici le principe de base. Retenir simultanément deux opinions qui s'annulent, alors qu'on les sait contradictoires, et croire à toutes les deux, employer la logique contre la logique, répudier la morale alors qu'on se réclame d'elle, croire en même temps que la démocratie est impossible et que le parti est le gardien de la démocratie, appliquer le même processus au processus lui-même. Là était l'ultime subtilité. Persuader consciemment l'inconscient, puis devenir inconscient de l'acte d'hypnose que l'on vient de perpétrer. La compréhension même du mot « double pensée » impliquait l'emploi de la double pensée. Si vous n'avez pas bien saisi le raisonnement d'Orwell, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt bon signe. Cette nouvelle logique est conçue pour faire littéralement disjoncter le cerveau. Mais ce n'est pas tout. Non seulement Orwell énonce un nouveau principe logique, mais il le met en pratique dans un nouveau langage, le novlang. Voici ce que Sim, l'un des créateurs du nouveau dictionnaire, explique à Winston. C'est une belle chose, la destruction des mots. Naturellement, c'est dans les verbes et les adjectifs qu'il y a le plus de déchets. Mais il y a des centaines de noms dont on peut aussi se débarrasser. Pas seulement les synonymes, il y a aussi les antonymes. Après tout, quelle raison d'exister y a-t-il pour un mot s'il n'est pas le contraire d'un autre? Les mots portent en eux-mêmes leur contraire. Prenez « bon », par exemple. Si vous avez un mot comme « bon », quelle nécessité y a-t-il avoir un mot comme « mauvais » ? Un « bon » fera tout aussi bien, même mieux, puisqu'il est l'opposé exact de « bon ». Ce n'est pas l'autre mot. Et si l'on désire un mot plus fort que « bon », quel sens y a-t-il avoir toute une chaîne de mots vagues et inutiles comme « excellent »,« splendide » et tout le reste ? « Plus bon » englobe le sens de tous ces mots. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime de la pensée, puisqu'il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Les objectifs du novlangue sont donc d'une part d'appauvrir la langue jusqu'à ne plus pouvoir exprimer ce qui n'est pas admis, d'autre part d'habituer le cerveau à ne pas se fier à son sens logique, ni à aucune autre forme de sensibilité. Il s'agit simplement de laisser son cerveau être subjugué, de gré ou de force, par Big Brother. C'était comme si une force énorme exerçait sa pression sur vous. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances, vous persuadant presque de nier le témoignage de vos sens. Le parti finirait par annoncer que 2 et 2 font 5, et il faudrait le croire. Il était inéluctable que, tôt ou tard, il fasse cette déclaration. Après tout, comment pouvons-nous savoir que 2 et 2 font 4, ou que la gravitation exerce une force, ou que le passé est immuable, si le passé et le monde extérieur n'existent que dans l'esprit, et si l'esprit est susceptible de recevoir des directives? Alors quoi ? En 2003, le groupe de rock Radiohead s'empare de cette thématique sur l'inconsistance de la réalité dans un titre que l'on entend ici, clairement issu du roman puisqu'il est intitulé 2 plus 2 égale 5. Et puis, vous avez reconnu tout à l'heure le célèbre Karma Police du même groupe Radiohead. Extrait d'un album plus ancien sorti en 97 et qui porte un titre tout aussi évocateur, OK Computer. Winston, par moments, est pris d'une colère violente. Mais il a peur, il la réprime. Ne jamais laisser les sentiments paraître sur le visage est devenu presque instinctif. Parfois, il ne se rend pas au centre communautaire. Il déroge aux règles, il ose désobéir. Il a découvert chez lui une niche dans le mur que le télécran n'atteint pas. Il y cache un cahier et une plume avec de l'encre. Winston commence un journal. C'est très difficile pour lui d'écrire. Rowell montre à quel point sa mémoire est déjà entamée par le conditionnement qu'il a subi. Néanmoins, Winston écrit. Il ne sait pas pour qui. Il est conscient du risque, mais il veut témoigner. Rage Against the Machine, c'est le nom du groupe que vous entendez ici. Rage contre la machine, un nom évocateur et un titre sorti en 1999, directement issu de notre roman. Testify, qui signifie témoigner. Winston veut témoigner. Pour qui écrivait-il ce journal ? Cette question, brusquement, s'imposa à lui. Pour l'avenir ? Pour des gens qui n'étaient pas nés ? Comment communiquer avec l'avenir ? C'était impossible, intrinsèquement. Ou l'avenir ressemblerait au présent et on ne l'écouterait pas, ou il serait différent et son enseignement, dans ce cas, n'aurait aucun sens. Pendant un moment, il fixa stupidement le papier. L'émission du télécran s'était changée en une stridente musique militaire. Winston semblait non seulement avoir perdu le pouvoir de s'exprimer, mais avoir même oublié ce qu'il avait d'abord l'intention de dire. Depuis des semaines, il se préparait à ce moment et il ne lui était jamais venu à l'esprit que ce dont il avait besoin, c'était du courage. Dans ce monde où le passé est falsifié et recomposé au gré du bon vouloir du parti, ce monde où certaines personnes sont inventées et érigées en modèle, d'autres personnes vaporisées, selon l'expression d'Orwell, c'est-à-dire non seulement tuées, mais effacées, jusqu'à nier qu'elles aient jamais existé. Dans ce monde où la vérité n'existe plus, où la réalité est inconsistante, Winston résiste, malgré lui, parce que des souvenirs lui reviennent. Souvenirs de sa mère, vagues réminiscences de lui. Tout cela, il ne se résout pas à les nier. On aborde là le thème essentiel de ce roman étonnant, la mémoire. Je crois que la plus grande force d'Orwell, avec 1984, au-delà de la réflexion politique et psychologique qu'il y mène, c'est la clarté avec laquelle il établit que la stratégie première d'un gouvernement pour détruire un homme ou une société, c'est d'effacer son passé. La plus grande manipulation qu'un chef d'État puisse exercer sur son peuple, c'est falsifier son histoire, ou pire, la nier. En cela, Orwell nous emporte dans une sorte de nihilisme vertigineux. 1984, c'est l'histoire d'un monde où les pensées sont conditionnées, où le réel n'est ni plus ni moins ce que l'on nous dit qu'il est. Un monde où la délation est encouragée, où l'on finit par avoir peur de ses propres enfants, si différents. Une fin amère, c'est le titre que nous entendons là, derrière ma voix. Bitter End, un succès international en 2003, chanté par Placebo, dont les paroles représentent comme le chant funeste de Winston, adressé à Julia. Falsifier la mémoire pour contrôler les connaissances et manipuler le réel. Appauvrir la langue pour éviter la communication. Voilà donc, d'après Orwell, les domaines où l'on se doit de rester vigilant si l'on veut garder sa liberté de penser. Ne pas être dupe. À quoi croyez-vous qu'elle serve, la littérature ? Retrouvez sur la page de notre site consacrée à ce podcast des extraits, des réflexions, des liens et toutes les références musicales inspirées par ce roman. Merci à Marie pour le son et les images. Rendez-vous sur Tout avec presque rien. Et si vous aimez, n'oubliez pas, abonnez-vous